Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, trois femmes, trois générations, trois avortements. SAAQ Click, oui, mais pas pour les ados. Et moins gaspillé pour économiser. Bonne écoute.
Trois femmes, trois générations, trois avortements. Un texte de Sylvia Galipeau, paru le 5 mars 2023 dans La Presse. L'affaire Chantal Daigle a relancé le débat sur le droit à l'avortement au pays il y a 34 ans. Un sujet encore tabou aujourd'hui, clivant par moments, dont peu de femmes se vantent. Pour ne plus le taire et toujours le défendre, trois femmes se racontent. Nos mères n'ont pas eu le choix. Marie Gray, 59 ans. Nous sommes en 1988, l'année de la décriminalisation de l'avortement. Marie Gray a 25 ans. Elle chante dans un groupe, a une voix du tonnerre et la vie devant elle. À l'époque, l'autrice, que l'on connaît, entre autres, pour ses histoires à faire rougir, n'écrit pas encore. Elle est plutôt rockeuse et pas prête du tout à être maman. On n'était pas prêts. On était des tripeux, pas du tout responsables, encore des enfants. Elle tombe enceinte, bien malgré elle, et en dépit de son moyen de contraception du moment. Parce qu'il n'y a pas un seul moyen de contraception qui soit efficace à 100%, apprend-elle à ses dépens. À preuve, 2 ans plus tard, rebelote. Sauf qu'heureusement pour elle, et contrairement à Chantal Daigle, ça n'a jamais été un enjeu pour ses conjoints. On n'était pas prêts. Je savais que je voulais des enfants un jour, mais pas là, dit Marie Gray. D'ailleurs, dans ma tête, je ne pensais pas à l'aspect légal. Pour moi, ça allait de soi. Elle avait le choix. Sa mère, très présente, lui apporte tout le soutien du monde et lui confirme « C'est ton choix seulement. » Je me souviens que l'affaire Chantal Daigle a été le premier événement porté par une fille de ma génération qui me faisait réaliser l'importance et le courage de ces femmes qui ont mené des combats pour obtenir ce que je tenais pour acquis, poursuit-elle. Ce n'était plus des histoires de ma mère, mais d'une fille de mon âge que je trouvais forte et admirable. Marie Gray se félicite qu'on aborde ici le sujet. C'est tellement important d'en parler. J'ai peur. C'est inquiétant ce qui se passe aux États-Unis, ce retour de la droite religieuse. On a beau dire qu'ici, ça n'arrivera pas, il ne faut rien tenir pour acquis. Conclut la mère de 2 grands-enfants, à qui l'on doit aussi un roman jeunesse sur le sujet, « Le vertige de Gabriel » chez Guy Saint-Jean. Il est important de décomplexer ce sujet-là. Marie-Ève Milot, 39 ans. Elle avait 23 ans et sa carrière en théâtre commençait à peine. Elle prenait la pilule et est tombée enceinte quand même. « Oui, c'est un choc », confirme la metteuse en scène et co-directrice artistique du Théâtre de l'Affamée. « Ce qui m'a fascinée, c'est que quand je l'ai dit à mon entourage, automatiquement, c'était lié à une bonne nouvelle. Comme si le « par défaut » n'était pas l'avortement. » Une réaction sous forme de pression, confirme la co-autrice de « Clandestine », une pièce inspirée de l'histoire de l'avortement au Québec, présentée en février 2023 au théâtre d'aujourd'hui. Parlant de clandestinité, « Ma mère a subi un avortement clandestin », enchaîne-t-elle. « Ma mère n'était pas maîtresse de son utérus. Or, dans l'illégalité et la clandestinité, tu t'exposes à tellement de choses. Quant à elle, Marie-Ève Milot savait très bien qu'elle n'en voulait pas, et son copain de l'époque non plus. Ce n'était désiré ni pour lui ni pour moi. Mais je vais quand même le dire, il n'était pas là, se souvient Marie-Ève Milot. Oui, ça l'a déçue. Elle s'est rendue au Centre des femmes et a vécu son avortement entre femmes de tous âges au parcours diversifié. Et ça déboulonnait plein de mythes, se souvient-elle. Et ce n'est pas lié à un traumatisme. Je suis reconnaissante d'avoir eu accès à ça et de cette manière. Mais l'actualité lui fait peur. Terriblement, insiste-t-elle. Et c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus. On a tendance à tenir nos droits pour acquis. Mais contrôler le corps des femmes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il est important de décomplexer ce sujet-là. D'autant plus avec ce qui se passe aux États-Unis, de l'exposer pour que d'autres femmes puissent s'identifier, de montrer la liberté de choix parce qu'elle doit être préservée. C'est un droit, une question de dignité et d'intégrité physique. Dans ma tête, c'était illégal partout. Maria Bejarano, 28 ans. La jeune femme, originaire de Colombie, est arrivée au Québec à l'âge de 17 ans. À l'époque, il y a 10 ans, elle ne parle pas un mot de français. Et dans mon pays, l'avortement n'était pas légal. Cela a pris beaucoup de luttes féministes, dit-elle. On n'avait pas beaucoup d'éducation à la sexualité non plus. Elle ne sait pas ce qu'est une relation saine, une relation intime. Je ne sais même pas c'est quoi l'amour. Toujours est-il qu'elle rencontre rapidement un garçon de son âge. Elle ne prend pas de moyens de contraception parce qu'elle ne sait pas trop à qui s'adresser et qu'aucun intervenant ne parle non plus l'espagnol. Et je suis beaucoup trop gênée pour demander à mon père. Quand elle prend conscience de son état, c'est la panique. Ma vie est finie. Énorme, infini soulagement, quand son petit ami d'alors lui révèle qu'elle peut mettre un terme à sa grossesse et que l'avortement ici, c'est légal, sécuritaire et accessible. C'est légal ici? Dans ma tête, c'était illégal partout, se souvient Maria Bejarano. Oui, c'est un soulagement, dit la jeune militante féministe. Moi, je suis pour, depuis que j'ai une conscience des inégalités sociales et de la pauvreté. Ce n'est pas tout le monde qui doit amener un enfant au monde. Son petit ami fait les appels, prend le rendez-vous et l'accompagne à la clinique. Il faisait la traduction pour moi, se souvient-elle. Non, elle ne le dit pas à sa famille. Peut-être qu'il se serait opposé, dit-elle. En Amérique latine, les parents vont toujours faire pression. Mais c'est notre décision. Même pas. C'est ma décision. Quelques années plus tard, plus établie dans la vie et avec un autre petit ami, Maria a finalement fondé une famille. Là, c'est très différent. J'ai une stabilité émotionnelle. Je suis prête, dit-elle. Mais si tu n'as pas les outils sociaux, économiques et émotionnels pour prendre en charge un enfant, tu ne dois pas être maman. Aujourd'hui, elle souhaite à sa fille la liberté de choisir comme elle. Et qu'elle ait confiance en moi si un jour elle tombe enceinte, parce que je suis une maman féministe et je vais toujours la soutenir. À noter que la Colombie a finalement dépénalisé l'avortement en 2022. C'était « Trois femmes, trois générations, trois avortements », un texte de Sylvia Galipeau, paru le 5 mars 2023 dans La Presse. Thank you. tu cliques? Oui, mais pas pour les ados. Un texte de Sabrina Duguay, paru le 4 mars 2023 dans La Presse. Le 28 janvier 2023, mon fils de 16 ans réussissait son examen théorique de conduite. Dès le lendemain, l'école de conduite lui envoyait son certificat par courriel, lui permettant de faire produire son permis d'apprenti conducteur. Garçon, fou de joie, croyait que le 30 janvier 2023, il aurait la chance d'apprendre à conduire notre voiture sous les bons conseils de papa. Avouez que je viens de vous arracher un éclat de rire. Eh oui! À ce moment-là, la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC, procédait à la migration de son système informatique et se retrouvait en période de services minimaux. Qu'à cela ne tienne, nous sommes allés chercher Fiston à l'école pendant une période consacrée à l'étude, nous promettant de récupérer cette étude à la maison. Nous pensions naïvement que la SAAC avait prévu une solution de contingence pour tous les apprentis conducteurs du Québec. Ça aurait été si simple. On reçoit l'ado en succursale, on constate qu'il a réussi son examen à l'aide de son certificat remis par l'école de conduite, on confirme son identité à l'aide de sa carte d'assurance maladie et de son certificat de naissance, et on remplit un formulaire à la main qui l'autorise à conduire le temps que cette foutue migration se termine. Eh bien non! L'ado s'est fait virer de bord, on a coupé court à son enthousiasme et on lui a dit de revenir le 20 février, tout en lui mentionnant qu'il serait préférable qu'il prenne rendez-vous sur la plateforme SAAC Click lorsqu'elle serait disponible. C'est là que l'histoire s'est corsée. Le 20 février, nous nous sommes à nouveau présentés à la SAAC. L'ado n'aura été présent dans le corridor de cette succursale que 3 minutes. On lui a dit de revenir dans 2 semaines en lui rappelant qu'il était préférable de prendre rendez-vous. À ce stade-ci, vous vous demandez peut-être pourquoi diable je m'obstine à ne pas prendre rendez-vous pour mon ado sur SAAC Click. La raison est simple. Il est impossible de prendre rendez-vous lorsqu'on est un jeune mineur apprenti conducteur. Vous avez bien lu. En effet, pour pouvoir s'authentifier sur cette nouvelle plateforme, il faut fournir le numéro d'assurance sociale. Ce ne sont pas tous les mineurs qui en ont un. Le numéro de la carte d'assurance maladie. Un numéro d'avis de cotisation. Ce ne sont pas tous les mineurs qui travaillent. Le numéro de permis de conduire. Bon, comment dire? Me permettez-vous de ne pas être obligé d'expliquer pourquoi un ado qui tente d'obtenir son permis d'apprenti conducteur n'a pas de numéro de permis de conduire? Nous voilà donc dans un « no man's land ». Cette semaine, en entendant Denis Marsolais, PDG de la SAAC, expliquer à Paul Arcan que le tout ne reviendrait pas à la normale avant la fin d'avril, je me suis étouffée dans mon café. Sachez que je ne jette pas la pierre à M. Marsolais. Quiconque œuvre au sein de la fonction publique ou en périphérie sait à quel point cet homme est compétent, respecté, dévoué et qu'il suscite l'engagement. Si j'écris tout cela, ce n'est pas tellement parce que je trouve que mon ado fait pitié, il va s'en remettre. Non, si j'écris tout cela aujourd'hui, c'est que je constate que cette société a tendance à oublier ses jeunes. Je tente de m'imaginer ces nombreuses réunions où il a été question des éléments nécessaires d'authentification. Il y avait sûrement plusieurs personnes autour de la table, du politique, des fonctionnaires, des conseillers, des experts externes et j'en passe. Bref, des dizaines de personnes. pas un seul humain n'a pensé lever la main et dire « Excusez-moi, mais je crois que pour les ados, ce qu'on demande ne sera pas possible. Il faudrait peut-être penser à une solution sur mesure pour eux. » Il semble bien que non. Et ça, c'est un brin épeurant. C'est surtout triste. En terminant, ajoutons ceci. Dans les « machines », il y a des humains. Et autour de ces « machines », il y a des parties prenantes. Si les humains, dans les machines, et si les parties prenantes répondent tous constamment qu'ils ne sont pas responsables de l'enjeu et qu'ils ne peuvent strictement rien faire, on s'entend qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Dans le cas présent, l'école de conduite est une partie prenante. Elle répond qu'elle ne peut rien faire, que c'est la faute de la SAC. L'école ne modifie en rien ses propres règles. Elle ne permet pas aux jeunes de poursuivre au moins l'étude de leur module théorique, si c'est plus. Elle ne les autorise pas à suivre plus d'un cours par semaine. Quelle règle bizarre en passant! Pour éventuellement rattraper le retard. Depuis la saga SAAC, elle n'a pas communiqué une seule fois avec tous ses clients qui paient pourtant plus de 1 000 pour suivre ses cours. Pire, elle maintient que si les cours ne sont pas suivis dans les délais prescrits, il y aura des frais supplémentaires. Désolée, mais selon moi, voilà une partie prenante qui contribue à amplifier un sacré bordel plutôt que de contribuer positivement à l'atténuer. Ceci n'est pas un billet d'humeur d'une mère hélicoptère qui s'en fait pour son petit ado chéri. Non. Ceci est un billet d'humeur d'une citoyenne de 45 ans qui commence à drôlement s'inquiéter de notre manie répétée à oublier nos propres enfants, de ce désengagement qu'on sent partout, de notre incapacité à mettre en œuvre et du mur qu'on va finir par collectivement frapper. C'était « SAAC, clic, oui, mais pas pour les ados », un texte de Sabrina Duguay, paru le 4 mars 2023 dans La Presse. Moins gaspiller pour économiser. Un texte de Marie-Ève Martel, paru le 7 mars 2023 dans La Presse. Au pays, chaque famille jette aux poubelles l'équivalent d'un mois d'épicerie par année en raison du gaspillage, que ce soit parce qu'elle ne consomme pas ses restes ou parce qu'elle laisse des aliments se périmer. La moyenne canadienne du gaspillage alimentaire représente 1 300 de nourriture par ménage annuellement, ce qui équivaut environ à 4 repas et demi par semaine, indique le Conseil national zéro déchet. En comparant cette statistique au plus récent rapport annuel sur les prix alimentaires, qui indique qu'une famille canadienne moyenne a investi 15 222,80 $ pour se nourrir en 2022, on constate que le gaspillage gruge 8,5% de son budget d'épicerie. Une statistique inquiétante dans le contexte actuel où le prix des aliments a considérablement augmenté. Les aliments les plus gaspillés sont les fruits et légumes, les restes de table, les produits de boulangerie, de même que les produits laitiers et les œufs. Des pertes évitables. Pour le Conseil national zéro déchet, gaspiller de la nourriture dans un contexte inflationniste est un non-sens. C'est pourquoi l'organisme profite de la deuxième semaine nationale contre le gaspillage alimentaire pour sensibiliser les Canadiens à maximiser la nourriture qu'ils achètent pour limiter le plus possible les pertes, particulièrement celles qui sont évitables. Environ 63 % des pertes alimentaires par les familles sont jugées évitables, ajoute-t-on. Cela représente, à l'échelle canadienne, quelque 2,3 millions de tonnes de denrées qui prennent le chemin de l'enfouissement chaque année. Au Québec, environ 1,2 million de tonnes d'aliments sont perdues ou gaspillées, ce qui représente 16 % de tous les aliments qui entrent dans le système bioalimentaire de la province, selon la plus récente étude de quantification des pertes et gaspillages alimentaires au Québec. De cette quantité, 28 % est attribuable aux ménages, soit 336 000 tonnes métriques d'aliments chaque année, relève Sophie Langlois, vice-présidente à la performance des opérations de Recyc Québec. Facture salée. Le gaspillage alimentaire coûterait aux Canadiens plus de 20 milliards annuellement. Des pertes difficilement explicables alors que le coût du panier d'épicerie ne cesse d'augmenter, indique Craig Hodge, président du Conseil national Zéro déchet. Alors que le coût des aliments est plus élevé que jamais, les consommateurs canadiens cherchent de nouvelles façons d'utiliser ce qu'ils ont au réfrigérateur et dans le garde-manger, ou de faire durer leur nourriture plus longtemps, fait-il valoir dans un communiqué. Le 13e rapport annuel sur les prix alimentaires, produit par les universités Dalhousie, de Guelph, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, indique qu'en 2021, le coût des aliments avait cru de 3 à 5 % Pour 2022, une augmentation de l'ordre de 10,3 % a été observée. Les auteurs du rapport prévoient une hausse de 5 à 7 pour 2023. C'est sûr que de chercher à réduire le gaspillage alimentaire chez soi est une bonne façon d'avoir un effet de levier, aussi bien sur l'environnement, parce qu'on va réduire nos déchets, mais aussi sur nos finances, parce qu'on diminuerait notre investissement lié à l'achat de nourriture, poursuit Mme Langlois. Quelques conseils. Les consommateurs ne réalisent pas à quel point les pertes alimentaires finissent par peser lourd dans leur budget annuel, parce que celles-ci s'accumulent progressivement. On sait que nous vivons vite, qu'on manque de temps, souligne Mme Langlois. Des fois, on achète de l'épicerie, mais on ne planifie pas adéquatement nos repas. On ne conserve pas les aliments adéquatement. Si on met en place quelques petits trucs simples, on va voir qu'on peut maximiser tous nos aliments et, du même coup, maximiser notre investissement pour se les procurer. Pour aider les ménages à réduire leur gaspillage alimentaire, la campagne « J'aime manger, pas gaspiller » Canada donne différents conseils. Elle suggère d'abord de planifier la préparation des repas pour déterminer plus précisément la quantité d'aliments dont on aura besoin et qu'il faudra acheter. S'il y a des restes, il est aussi possible de prévoir une autre recette qui en fera bon usage. Les organismes encouragent aussi les consommateurs à réchauffer les restes ou à les retravailler pour en faire un tout nouveau plat. Les restes qui ne pourront pas être consommés rapidement pourront, pour leur part, être congelés. De bonnes conditions de conservation sont d'ailleurs essentielles pour prolonger la vie des aliments et limiter les pertes. Partenaire québécois de l'initiative, Recycle Québec a d'ailleurs rendu disponible gratuitement une trousse d'informations à l'intention des municipalités. Certaines prennent activement part à la Semaine nationale contre le gaspillage alimentaire, dont Chapais, Gatineau, Montréal et la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Cette dépêche a été rédigée avec l'aide financière de la Bourse de Meta et de la presse canadienne pour les nouvelles. C'était « Moins gaspiller pour économiser », un texte de Marie-Ève Martel, paru le 7 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.